Salut à tous, c'est Romaric, bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on est au mois de mars, toujours, et on fait une pause dans notre parcours de la planète rouge au cinéma. Une magnifique parenthèse puisqu'on retrouve la brigade cinéphile du cinéma Les Carmes à Orléans, qui est lui-même de temps en temps cité sur les grandes radios, dernièrement au jeu des 1000 euros sur France Inter.
C'est magnifique.
Elf, Aiden, Élise, Camille et Selim vous proposent un parcours critique des derniers films art et essai des dernières semaines. On commence avec un retour critique, avec le film qui a vraiment été le grand vainqueur de la nuit, dernière nuit des Césars. Il parle d'une autre nuit, il s'agit de la nuit du 12, et c'est le premier film avec lequel on va commencer notre parcours art et essai en la compagnie donc de la brigade cinéphile. C'est parti, ça commence tout de suite.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Tcha! Graffiti cinéma.
Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre?
Est-ce que Clara avait des ennuis?
Elle tombait facilement amoureuse.
Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse.
Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort.
Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive.
Moi, je trouve quand même que ça sent la punition.
La jalousie, c'est un levier énorme.
On fait un boulot bizarre, quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations, et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports.
C'est ça.
On combat le mal en rédigeant des rapports.
Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper.
Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile.
En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. Commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre?
Je sais pas.
C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus?
Vous voulez savoir pourquoi elles avaient tué? Moi, je sais, je vais vous dire.
À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante.
J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux.
Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur.
Maintenant, arrête-toi!
Ça vous dévore.
Chose qui cloche entre les hommes et les femmes.
Merci infiniment, c'est un prix qui nous touche énormément, comme vous pouvez l'imaginer. Dans le film, deux personnages partagent ce constat, il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. C'est un euphémisme. Le morbide décompte de la violence faite aux femmes tient en une phrase. Un décès tous les trois jours et dans les mauvaises années tous les deux jours. Seules les femmes savent dans leur chair ce qu'est la violence qu'on leur inflige. Mais pourtant, quand Dominique et Gilles sont venus nous voir avec l'envie de faire ce film, il nous est apparu évident qu'il y avait un manque, que le regard des hommes était important, qu'il fallait donner la parole à ces hommes-là et que les cinéastes devaient absolument s'emparer de ce récit. Dominique, il y a quelques jours, tu as donné un interview et tu as cité la philosophe Geneviève Fraisse qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée. C'est que MeToo a libéré la parole, mais qu'il s'agissait maintenant de libérer l'écoute. Or, dans le film de Dominique, les hommes écoutent. Ils écoutent d'autres hommes débiter un flot de propos profondément misogynes sans se rendre compte de rien. Mais surtout, ils écoutent des femmes, et des femmes qui leur tendent un miroir sans concession. Et je pense que si le film nous bouleverse, c'est pour cela, mais c'est aussi pour cela qu'il nous apaise profondément et que nous en avions tous et toutes très profondément besoin. Donc, je dirais vive les femmes et vive les hommes qui rejoignent leur combat, parce que ce combat, nous devons le mener ensemble. Merci.
Thank you.
Alors on est dans le hall du cinéma Les Cars, on est très content de retrouver la brigade cinéphile. Là justement on est tous autour de la table, vous êtes 5 avec nous et justement on va en parler avec vous parce qu'on a beaucoup parcouru les films à réessayer la saison dernière et puis durant cette saison et on vient justement, nous on enregistre, on est 3-4 jours après les Césars et justement on va partir sur le grand vainqueur de cette nuit des Césars qui est la nuit du 12 de Dominique Moll. Justement on va vous lancer parce que vous étiez nombreux à l'avoir vu et à vouloir reparler évidemment de ce film là en introduction. C'est vrai que c'est important puisque c'est le but de la brigade cinéphile, c'est d'avoir des jeunes qui parlent d'art et essai et on l'avait rapidement repéré celui-ci, hein. C'est vraiment un film qui vous branchait énormément et je voulais vous lancer là-dessus sur les récompenses qu'a eu ce film, hein. Il y en a eu 6 César donc c'est relativement complet et Edan du coup je vais te lancer et puis évidemment on va rebondir sur ce que tu nous dis sur la nuit du 12 évidemment. Quand tu veux, c'est vrai que La Nuit 12, on peut le rappeler, donc on a entendu la bande-annonce, hein, c'est vrai que c'est un film d'actualité, évidemment, mais c'est aussi un film de genre qui ne se contente pas seulement d'un sujet. Et ça, c'est très important quand on parle de cinéma.
Oui, La Nuit du 12, c'est peut-être bon de le rappeler. Il a gagné donc plein de prix, y compris le prix de la meilleure adaptation. Et donc, ce qui est un peu étrange, puisque c'est un livre qui est adapté, enfin c'est un film qui est adapté d'un livre documentaire. Donc documentaire qui où c'est une l'autrice dont j'ai oublié le nom.
Pauline Guéna,
merci. Qui mène une investigation dans un commissariat pour faire son livre. Qui, donc, qui se veut comme un livre documentaire du métier de policier. Et dans ce livre, il y a une affaire qui est donc une jeune femme qui a été immolée. Et La Nuit du 12, il va prendre ce petit passage du livre pour en faire tout un film. Et un film qui aborde des thématiques très diverses. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans La Nuit du 12, c'est que ça parle aussi bien du rapport entre les hommes et les femmes, qui est le sujet évident du film. Ça parle aussi du rapport de l'humain à la nature, puisque l'actrice se passait dans le livre à Versailles et a été déplacée à Grenoble, parce qu'à Grenoble, on a vraiment ce rapport avec les montagnes qui écrasent la ville, et en même temps, c'est une ville qui est très... En fait, Grenoble, c'est une ville qui est construite au cœur d'une cuvette de montagne. Et du coup, il y a ce rapport-là entre la ville et la montagne qui est omniprésent dans le film. Et ça parle aussi d'obsession, notamment à travers la métaphore du cyclisme, qui est dans un circuit fermé et qui après se libère à la fin à la montagne. Et moi, ça m'a rappelé, par certains aspects, c'est peut-être une comparaison un peu douteuse, mais ça m'a rappelé un peu Twin Peaks.
Non, c'est vraiment top, oui. Ouais. Oui, c'est vrai que ça ne m'avait pas frappé, c'est immanquable en fait, oui. Alors pour rappel, Twin Peaks, hein, c'est pareil, c'est un coin un peu paumé aux États-Unis, d'enquête policière, un meurtre, tout le monde cherche le meurtre de Laura Palmer. Bon, c'est plus métaphysique, hein, Twin Peaks, oui. Évidemment, mais c'est vrai que dans la mise en scène, dans le canevas et les éléments scénaristiques et de décor, on est en plein dedans, en effet, ouais.
Bah, on retrouve ce schéma d'une fille que tout le monde pensait être adorable, mais qui avait en fait une vie cachée. Et justement, La Nuit du 12 retourne un peu ça, puisque en fait, pourquoi est-ce que ça serait de sa faute à elle ? Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, et je vais peut-être laisser la parole parce que j'ai déjà beaucoup.
Oui, moi, quand j'ai vu ce film, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment... très très fort, il y avait aussi une grande violence, les acteurs ils jouaient vraiment très très bien et on sentait qu'ils jouaient juste pas un rôle, ils étaient vraiment aussi impliqués dans l'histoire et voilà. Et du coup, et c'est vrai que donc ça abordait la violence, l'obsession, mais il y avait aussi, vraiment on était vraiment concentrés, en fait pour une fois on voyait quand même un personnage masculin dans une sorte de faiblesse. Et souvent, on montre souvent les femmes dans une sorte de faiblesse. Mais là, vraiment, on avait ce personnage principal avec aussi, je ne sais plus les prénoms, mais son collègue aussi un peu paumé et tout. Et c'est vrai qu'on voyait un peu des hommes complètement paumés face à une affaire qui est extrêmement violente d'une femme brûlée. Et c'est vrai que, du coup, il y avait une certaine sensibilité aussi. Qu'on pouvait retrouver malgré toute cette violence. Et aussi, si on parle plutôt au niveau technique, les images étaient vraiment très très belles, la musique aussi, et c'était vraiment une musique qui n'était pas... c'est une musique qui, comment dire, donnait pas au film un côté très tragique, comme ça. C'est vraiment une musique qui respectait le film et l'ambiance, et du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, et les 6 Césars, ils sont vraiment mérités, donc voilà.
Je pense que La Nuit du 12, ça marche vraiment bien parce que c'est un film qui est marquant en fait, même là ça fait
un petit moment que je l'ai vu et je me souviens encore de phrases qui m'ont marqué dans ce film. Ces personnages masculins où en fait ils en viennent à se demander pourquoi c'est des hommes qui en viennent à devoir résoudre ces problèmes et eux en tant qu'hommes ils finissent par se poser cette question-là et ça traite de ça, de la relation entre les hommes et les femmes et comment ça fonctionne, et je trouve ça très très fort en fait.
C'est vrai qu'il y a une phrase moi qui m'a beaucoup marquée, je sais pas si c'est la phrase exacte, mais dans le film à un moment donné, il y a le collègue du personnage principal, il est en train de s'énerver contre un... Cette scène elle est très forte, c'est contre un rappeur, il me semble, qui en fait fait un rap et dit des choses un peu horribles sur les femmes, et en fait à un moment donné il crie, il dit mais c'est quoi ce... ce délire de vouloir brûler des femmes, et c'est vrai que cette phrase elle résonne vraiment, je trouve, un peu tout au long du film.
La force du film aussi, c'est les personnages secondaires, les hommes qui sont interrogés ou suspectés tout le long du film. Je vois pas un seul mauvais acteur, enfin, les performances elles sont incroyables, elles donnent vraiment un sens au film, et les rôles façonnent le film complètement, je pense, et c'est limite eux les personnages principaux du film. C'est eux qui ont le plus de temps d'écran, même si le sujet c'est Clara, c'est eux qui font un peu le film. Donc c'est pas très sympa ce que je dis en parlant d'hommes, alors que c'est censé être un film qui parle aussi de la relation des hommes et des femmes, mais dans ce cas-là, c'était plus des hommes qui avaient des rôles, malheureusement.
Bah, c'est vrai qu'en guise de... il nous reste 2 minutes vraiment pour parler de ce film, mais c'est vrai que c'est très très dense, et on avait déjà parlé dans les podcasts précédents, mais ça parle aussi de choses qu'on trouve dans des films français cette année, jusqu'à La Syndicaliste, ça parle de la construction du regard masculin sur les femmes. Eux-mêmes se questionnent, pourquoi on pense ça, pourquoi on fait des clichés, pourquoi on fait des raccourcis. Il y a aussi une autre... Il y a beaucoup de scènes très très fortes de toute façon dans La Nuit du 12, hein, c'est un film absolument incontournable. Alors, j'aime pas dire il faut voir, parce que ça fait un peu ayatollah, et ça fait un peu dictate, mais c'est vrai que c'est vraiment important de le voir, en tout cas ça apporte beaucoup de choses et ça fait réfléchir au bon sens du terme sur les clichés et ce qu'on amène avec nous. Et c'est vrai que dans des métiers comme la police, justement police le faisait, mais de manière beaucoup plus le film de Mai Wen, beaucoup moins construite, c'était beaucoup plus décousu à ce niveau là c'était un parti pris de la réalisatrice. Là il y a vraiment la théorie de dire on construit le regard masculin, on voit comment il se construit et on le remet en question également, et il faut que les hommes le remettent en question dans le film, et ça c'est des scènes vraiment importantes également.
La Nuit du 12, moi ce qui m'a aussi frappé, c'est l'approche quasi documentaire en fait du métier de policier, c'est-à-dire qu'on a l'impression de regarder un reportage TF1 mais sans la voix off indiscrète et sans les... Non mais vraiment, on est, c'est comme si on posait une caméra sur leur table et qu'on la laissait tourner pendant leur discussion, même si bon, il y a des champs contre champs, mais on assiste vraiment à leur discussion, à leur traquin du quotidien. Et pour rajouter enfin une dernière chose, c'est que moi c'est un film qui m'a hypnotisé, parce que le carton au début du film dit pourtant qu'il n'y a pas de résolution. Et pourtant, j'ai regardé le film 2 fois et je me suis surpris à le re-regarder quand il est passé après La Nuit des Césars. Et vraiment, à chaque fois, il m'hypnotisait et je savais qu'il n'y avait pas de résolution, mais le film arrivait à me faire croire qu'il allait en avoir une, qu'on allait trouver le coupable. Et c'est ça qui est extrêmement puissant aussi.
Tout à fait. Et c'est vrai que pour le coup, on voit qu'il met une fin ouverte comme celle-ci, assez frustrante, fonctionne très bien. Léa, je te tends le bon micro qui fonctionne.
C'est juste pour confirmer que la plupart des spectateurs qui sont sortis sont souvent venus nous voir en caisse du cinéma pour nous dire mais il n'y a pas de résolution en fait, alors que c'est un carton qui est très clairement signalé dès le départ, comme quoi de savoir déjà la fin en avance, et bah ça n'empêche pas d'avoir un suspense, une tension, et que c'est très réussi dans la mise en scène et dans la manière qu'on a aussi d'être très proche du personnage de Bastien Bouillon, Johan, qui est très très intense dans son jeu d'acteur, je trouve, et dans la manière dont c'est monté cette truc très très en tension tout le temps, et je suis d'accord, c'est un film qui se revoit sans aucun problème.
Et elle, pour le moment de la fin.
Et juste pour finir, et ce qui donne encore plus de comment dire, le fait qu'on est un peu insatisfait à la fin parce que ça n'a pas été résolu, c'est qu'en fait, contrairement à l'affaire, pour la vie de Johan, c'est ça, et ben lui, pour le coup, il a entre guillemets résolu un problème personnel qu'il avait, c'était de toujours tourner en rond, et au final, on le voit à la fin complètement libéré, et on repense à l'affaire qui, elle, n'est pas complètement libérée. Voilà. It's true.
Et toi alors?
Pardon?
Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais?
Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel.
J'adore cette réponse.
Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose de plus important que la vie.
Ouais! C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. Si j'étais riche, moi, je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants, pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête.
Donc, tour de table sur Babylone, le film événement de Damien Chazelle. C'est vrai que c'est un film fleuve, hein, et on le disait, c'est son quatrième film à Damien Chazelle. Il a le vent en poupe à Hollywood, notamment parce qu'en France, on l'aime bien, puisqu'il est franco-américain, évidemment. Donc, comme on est un peu chauvin, on le met souvent en avant. Mais aussi, surtout, parce que ce film fleuve, on l'a senti dans certaines critiques, hein, en les lisant, qu'il c'était assez clivant. Il n'est pas forcément du juste milieu, donc on va voir avec vous, justement, puisque vous êtes quatre à l'avoir vu autour de la table. C'est justement Babylone, qui est vraiment un film somme, hein, qui raconte les origines du cinéma, les premières heures du cinéma et du Star System, a eu le même effet sur vous.
Oui, Babylone, ça repasse les débuts, entre guillemets, d'Hollywood. On va découvrir comment ils filmaient le cinéma muet, puis comment ils vont passer au parlant. Mais voilà, Babylone, j'ai trouvé que c'est intense. C'est un film qui est là pour choquer. Enfin, c'est la première fois dans une salle où j'ai vu vraiment des gens faire comme ça devant les images, parce que bon, bah, c'est pas toujours très. Je sais même pas quoi. Non, en vrai, ça va, mais bon, voilà, faut s'attendre à avoir du vomi, de la pisse et de la merde aussi, pour dire les mots.
J'ai l'impression
quoi.
Qu'il y a un côté un peu James Ellroy dans ce film-là. Moi, je ne l'ai pas vu. Encore une fois, je suis en béotien, donc je vous écoute religieusement. Mais je suis assez surpris de ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas des territoires sur lesquels il allait dans les derniers films. Hein. C'était une esthétique plutôt léchée à tous les niveaux. Et c'est vrai que ce n'est pas des éléments, en tout cas des graphiquement, qu'il représentait jusqu'à maintenant, hein, Damien Chazelle.
Oui, bah là, on voit avec Babylone qui tente des nouvelles choses. C'est quand même un film, je trouve, qui penche plus sur la comédie, contrairement à ses autres films qui n'étaient pas du tout comiques, hein, vraiment pas. C'est intense, on passe du rire aux larmes en 2-2. Et puis on a quand même cette BO de jazz de 43 morceaux qui est tout aussi intense et qui accompagne très 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 bien le film et qui est un plaisir. Et c'est ça que j'aime bien avec Damien Chazelle, c'est qu'en plus il vient avec ce genre musical que personne n'aime et il dit regardez, moi je peux vous le mettre pendant 3 heures, vous allez aimer. Et ça j'adore à chaque fois.
La musique elle accompagne vraiment beaucoup le film et tout. Enfin, genre, ce que je veux dire c'est que la musique est toujours très présente dans ses films et on voit très bien que voilà, le jazz c'est dans sa vie et il nous l'impose à chaque fois presque. Et du coup, voilà. Et moi personnellement j'appréciais donc voilà. Après j'ai trouvé que des fois il y avait des scènes qui étaient très bien faites, réalisées, mais qui faisaient un peu tache dans le film. C'était pas forcément utile. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et comme la scène de la grotte, voilà, au cas où ceux qui ont déjà vu le film.
Bien aimé.
Ah oui, ceux qui ont. Ah bon ? Ceux qui ont déjà vu le film, bah voilà. Bah, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, très fort et tout. Mais bah, je sais pas, je trouvais pas que ça apportait grand chose au film, même si ça montrait un peu la folie qu'on pouvait avoir dans le monde du showbiz, on va dire. Et donc voilà. Et après, c'est vrai que j'ai trouvé que la fin, en fait, il aurait pu. Parce qu'à un moment donné, il fait un petit hommage au cinéma dans sa globalité. Et j'ai trouvé qu'il aurait vraiment plus poussé les choses parce que ça allait un peu trop vite. Et j'ai trouvé que. Il aurait pu vraiment prendre pas prendre le temps, mais montrer encore plus de choses. La fin n'était pas assez folle par rapport à ce qu'il nous avait montré avant.
Parce qu'il fait déjà 3 heures, hein, tu veux qu'il fasse une série, en fait.
Mais sinon, il y avait aussi des personnages très touchants. Contrairement le personnage de Brad Pitt, j'ai trouvé qu'en fait c'était un peu le cliché, voilà, mais qu'on arrivait beaucoup.
C'est quoi le cliché de Brad Pitt? Ça m'intéresse. Comme il vient d'avoir César d'honneur.
Et voilà, et puis même quand on regarde l'acteur et tout, voilà, c'est Brad Pitt, voilà, mais en fait le personnage, j'ai trouvé qu'il était extrêmement touchant et on s'attachait au personnage. D'accord. Et c'est vrai que
ça montrait vraiment un peu la dureté, enfin la star qui est un peu finie. Et du coup voilà, j'ai trouvé qu'on s'attachait beaucoup au personnage, et au personnage principal. On s'y attachait moins.
D'accord.
C'est assez marrant sur Brad Pitt, parce que je trouvais justement que son personnage résonnait vachement en fait avec l'acteur qu'il était, oui. Et que je trouve que ça faisait un super bon parallèle, et ça c'était cool. Et moi par contre, j'avoue que tout le monde a parlé de Brad Pitt, mais je vais peut-être être un peu contraire à ce que tu as dit, mais franchement j'ai été vraiment surprise par justement le personnage principal. Je connais pas du tout le nom de l'acteur, mais en tout cas c'est un acteur qui a quasiment rien fait, je crois, et que Damien Chazelle a été le trouver, et que on n'en parle pas trop parce que c'est un peu Brad Pitt, mais franchement il m'a convaincu. J'ai vraiment beaucoup aimé son jeu, et pareil aussi
Margot Robbie,
oui, bien sûr, qui était transcendante.
Moi, j'allais le voir en tête que c'était un film fleuve, avec un film un peu choral, puisqu'on nous vendait avec plein de personnages, sauf qu'en fait, il n'y a que trois personnages principaux, et les deux autres, notamment personnages qu'on nous vendait, ils ont un trait de caractère, c'est-à-dire qu'il y en a une, elle est lesbienne, et il y en a un, il est noir. Et je trouve ça super mal exploité. Ces deux personnages, je vois pas ce qu'ils font vraiment là. Ils sont un peu inexistants. Enfin, on parle de comédie. Moi, j'ai pas trouvé ça spécialement drôle. Et les seules blagues, on va dire, que j'ai trouvé drôles, c'est des blagues que j'avais déjà vues ailleurs et mieux faites. Notamment, il y a toute une scène qui est assez drôle. Enfin, moi, dans la salle, ça riait beaucoup. Où il y a un problème de micro. Et donc, c'est Margot Robbie qui fait les débuts dans le cinéma parlant. Il y a un problème de micro. Et donc, ça joue sur la température de la cabine qui est extrêmement chaude, le fait de se placer sur la marque, les grincements, le staff qui fait du bruit, tout ça. Mais en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues dans Chanson sous la pluie. D'ailleurs, le film aime bien référencer Chanson sous la pluie un peu pour tout et pour rien. Surtout pour rien, parce qu'en fait, le film veut faire Chanson sous la pluie, mais il fait en moins bien et ça dure plus longtemps. Donc, je sais pas.
En fait, la fin, on comprend que Chantons sous la pluie, il est sorti après, et en fait que justement eux, les personnages, ils étaient avant et ils ont impacté. Et en fait, c'est le film Chantons sous la pluie dans Babylone, il a le rôle du film qui se moque en fait de ce qu'ont fait les personnages avant.
Ouais. Et c'est pas ce que fait Babylone déjà, enfin, je sais pas.
Vu que Babylone, entre guillemets, ça se passe avant Chanson sous la pluie, la fin, en fait, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien avant l'hommage au film, mais que la scène était vraiment bien parce qu'on comprend que en fait tout ce qui se passe dans le film de Chanson sous la pluie, et ben en fait c'est de la moquerie de ce qui s'est passé avant. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez fort et c'était assez culotté.
Aussi, je voulais juste rebondir. J'ai dit que c'était un film comique, mais je suis d'accord avec toi que perso, je suis pas le genre de personne à vraiment éclater de rire devant des films. Et ça n'a pas été mon cas, mais c'est juste que j'ai relevé que vraiment, il y a eu beaucoup de gens qui ont ri dans la salle. Et que voilà. Mais j'avoue qu'après avoir vu tous les films de Damien Chazelle, moi, je préfère bien pleurer devant un de ses films que rire. Mais bon, après, c'est personnel, quoi.
Je me retrouve des deux côtés, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées et des choses que j'ai moins aimées, notamment l'acteur principal dont j'ai aussi oublié le nom, mais qui est superbe. La comédie, je suis d'accord, j'ai pas pleuré de rire devant le film non plus, mais il y a quand même des très bonnes scènes et il y avait beaucoup de moyens dans le film et je trouve qu'ils ont été bien utilisés. Ça nous permet d'avoir des scènes incroyables et quand on sort des 3h10, on est peut-être pas lessivé, mais on est émerveillé. Enfin, quand je suis sorti, j'étais très content de l'avoir vu. Et j'ai pas trouvé ça très long comparé à d'autres films de 3h10 où il se passe moins de choses. Et
moi, il y a un gros défaut que je trouve au rythme du film, c'est que le film, en fait, pose une situation, problème, résolution du problème. Alors, ça passe souvent par la même résolution, d'ailleurs. C'est on doit trouver un objet pour nous aider. Et le film fait ça en permanence, sans jamais que ça fasse avancer les personnages et que ça leur fasse apprendre des choses. Et à part à la toute fin, où ils se mettent à évoluer tout d'un coup.
غريبة شوية.
عليها غريبة.
On va faire un sacré patchwork de films, là, de très bons films des dernières semaines qu'on a pu découvrir en arrêt-essai. Et c'est vrai qu'il y en a un, pour lancer le bal, parce qu'ils ont toutes leurs particularités, on va le découvrir, ils gagnent tous à être connus. Le premier, en tout cas, c'est un film qui est vraiment à l'aisir de plusieurs genres, et c'est Ascal, qui se passe en Tunisie. Alors pourquoi je dis qu'il est à l'aisir de plusieurs genres? Parce qu'il est programmé en arrêt-essai, mais il a même été chroniqué dans Mad Movies, parce qu'il a ce côté un peu fantastique, qui a beaucoup plu dans différents registres, un peu à l'image de Thomas Salvador, hein, qui touche à beaucoup de registres. Lui également avec son film La Montagne. Mais Ascal, c'est vrai que pour le coup, moi je suis très curieux d'en entendre parler. Camille, on va te lancer parce qu'on t'a pas entendu encore, donc on va vraiment te pousser à parler. C'est hyper désagréable pour toi. notamment parce qu'on a très envie d'entendre parler de ce film, tout simplement. Vous êtes deux à l'avoir vu avec Edan et Ascal, L'Enquête Tunisienne, c'est aussi un film chouchou hein, de Léa, je crois. Voilà, exactement. Donc on vous écoute sur ce film-là. C'est une enquête un peu, je dirais, à Le Caire Confidentiel. Ça peut repartir là-dessus, des films qui évoquent un peu les répercussions du printemps arabe. Je dirais, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans ce film-là.
C'est une enquête, en fait, pendant tout le film. Il y a des gens qui s'immolent, et donc du coup, on essaye de savoir pourquoi, est-ce que quelqu'un fait ça, est-ce que quelqu'un leur fait ça, ou comment ça se passe, etc. Donc c'est une enquête pendant tout le film. Et en fait, moi, je suis très mitigée à propos de ce film, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'aspect cinématographique. Donc toutes les lumières, tous les cadrages et tout, les musiques, j'ai trouvé que c'était excellent, mais vraiment. Mais par contre, le scénario, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal déjà avec la fin. Je l'ai trouvé...
Que tu vas nous spoiler maintenant.
Non, 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 mais je l'ai trouvé frustrante. Okay. Après, c'est mon avis personnel. Et ouais, j'ai eu du mal avec le scénario, mais par contre, l'aspect vraiment cinéma... J'ai adoré, personnellement.
Alors, c'est vrai que, bon, de toute façon, les avis n'engagent que nous. Puis on est dans un podcast, on encourage les gens à aller voir les films. Hein, donc, même si vous entendez des avis qui ne correspondent pas aux vôtres, bah, vous faites votre avis par vous-même. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et c'est pour ça qu'on en parle, en bien comme en mal, parce que c'est vrai, le principe des films, c'est de faire parler les gens. Donc, ça tombe bien. Et moi, j'avais juste une question avant qu'on tende le micro à Edan. C'est au niveau du scénario, qu'est-ce qui te gêne? C'est que ça manque de cohérence, comme on a justement cette idée de fantastique. Est-ce que c'est pas assez rationnel pour toi, peut-être?
Déjà, j'ai eu du mal avec l'histoire. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment pas commun, donc ça peut être un mal ou un bien. Mmh. Après, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui est repris dans notre truc qu'on a déjà vu 10 fois, donc oui, ça c'est bien. Mais après, j'ai eu un peu de mal quand même à me plonger dans le truc et tout. Et oui, du mal avec la fin aussi. La fin, ça m'a déçu en fait.
Un film, il rencontre une personne et parfois ça arrive. Voilà, tout simplement. Edan,
on tout à fait d'accord. C'est un film qui est magnifique visuellement, notamment le feu, la photo du feu qui est très bien gérée. Okay. Et sur le scénario, oui, c'est vrai que c'est assez abrupt. L'enquête piétine un peu, enfin, on le voit très vite. Et du coup, on a un peu mal à rentrer dedans parce qu'il y a très peu de nouveaux éléments qui sont apportés. Et à chaque fois, c'est plus des éléments géopolitiques, mais vraiment, l'enquête en elle-même, elle avance pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de tensions au sein de la police. Et c'est cette description des tensions au sein de la police aussi que j'ai trouvé très, très touchante, parce que le protagoniste, c'est une femme. Et en fait, son père est chargé de juger les criminels. Les policiers criminels pendant la révolution. Il y a des tensions au sein de cette police et moi je trouvais c'est un des aspects qui m'a beaucoup plu du film. À un moment, le film bascule totalement dans le fantastique. C'est pour ça que c'est pas totalement un film policier parce que notamment tu parlais de la fin. La fin, elle est vraiment en deux temps. Il y a une fin, l'avant-dernière scène qui se passe sur un parking et là c'est vraiment un rappel brut à la réalité la plus concrète. C'est brut.
Tu fais bien le béton d'ailleurs.
Ouais. En même temps, on a du coup la résolution de cette enquête, mais qu'on est quand même pas une, parce qu'on a une scène à la fin où on voit, c'est une résolution possible. Ouais, c'est quelque chose de mystique qui a lieu, qui m'a beaucoup rappelé d'ailleurs la fin d'Hérésité. Une des influences du film, c'est Cure de Kyoshi Kurosawa. On a cette enquête policière qui vire au fantastique totalement et qui va retourner les nerfs des inspecteurs chargés de l'enquête pour finalement un peu se laisser tenter de plus essayer de rationaliser, juste voir ça en tant que tel, c'est mystique, point. Et donc, pourquoi est-ce que Cure est une influence du film? Parce qu'il y avait le réalisateur qui était venu et qui avait dit donc qu'il avait revu Cure avant le tournage.
D'accord.
Voilà, donc ça peut donner envie de voir le film aux gens.
Bah heureusement qu'il a vu un bon film avant le tournage. Hein. We'll be right back. qui est Aftersun aussi, vous êtes nombreux à l'avoir vu, autour de la table. Et c'est pareil, Aftersun, après le soleil, hein, on traduit en anglais, faites gaffe avec les traductions, pas d'accident s'il vous plaît. Aftersun, c'est pareil, moi je le découvre justement avec vos critiques, je n'en connais que le titre et je suis très curieux également de vous entendre parler de ce film-là.
Bah, pour ma part, c'est, je pense, un des films que j'ai le plus attendu de 2023 parce que on a à l'affiche Paul Mescal, c'était son premier long métrage il me semble, et moi je l'avais découvert déjà en, je crois en 2020 ou 2021 dans la série Normal People, et j'avais juste adoré, et on voyait déjà à quel point il avait du potentiel et donc Aftersun, on le voit dans ce film là et il joue merveilleusement bien. Donc Aftersun, pour résumer un peu, c'est on voit à travers les yeux d'une petite fille, je ne sais plus son nom.
C'est vrai qu'on oublie souvent les noms des personnages.
C'est horrible.
Non mais c'est dingue quand on parle d'un film.
Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'elle s'appelle Sophie.
Sophie, allez, enchantée.
Et donc en fait, elle est adulte et elle essaye de se souvenir d'elle petite et la relation qu'elle avait avec son père. Et en fait, on plonge un peu dans ce souvenir-là de vacances en Turquie.
Je crois.
C'est un film très simple et qui est fin dans ce qu'il veut montrer. Il en dit pas trop, mais on comprend là où il veut nous emmener et c'est très très justement fait. Et moi, pour ma part, j'aime beaucoup les films qui se posent. On va juste suivre des personnages dans leur vie. Et c'est pas forcément, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est bien fait. La caméra se pose sur des petits détails et on savoure chaque instant.
On voit aussi Sophie, du coup, la petite fille. On la voit grandir. On voit que ses vacances, ça va jouer un tournant dans sa vie. Et je pense que c'est pour ça qu'à la fin, on la revoit très brièvement, sans spoiler. Ça joue pas du tout dans l'histoire, mais on la revoit qui repense à ses images et à ses vacances. Et je pense que ça a été un tournant dans sa vie, partir en vacances seule avec son père. On la voit, elle découvre plein de choses du début, du très début de l'adolescence. Mmh. Les relations avec des amis à elle, un garçon aussi, et des gens plus vieux qu'elle. Et elle passe ses vacances avec des gens plus vieux et elle découvre plein de choses. Et c'était superbe comment c'était amené. Ça s'est fait parfaitement et j'ai adoré. Et la relation qu'elle a avec son père, elle est incroyable. Et les deux se matchent trop bien.
Le mot simple hein, revient souvent, mais on voit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui touche en tout cas.
C'est distribué par Mubi. Et parce que pendant longtemps, on n'a pas su quel distributeur allait distribuer en France. Et donc, il arrive enfin. Et donc, ça se passe, comme vous l'avez dit, entre des vacances entre un père et une fille, dont d'ailleurs on garde le doute de est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est juste un rêve qu'elle aurait pu faire, même si on a des traces avec une caméra numérique. Aftersun, ça se passe donc dans un espèce de Club Med en Tunisie. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touché dans le film...
C'est en Turquie.
C'est la Turquie.
Tu confonds aussi la Slovaquie et la Slovénie ? Non.
Ah, ça ressemble aussi vachement.
C'est pas gentil. C'est qu'on parlait d'Ashkal juste avant, c'est pour ça, en effet.
Ouais. C'est pas des parias, mais ils refusent de rentrer dans le cadre de la famille. Enfin, c'est dit très clairement au début d'une scène, enfin dans une scène au début, où... t'as la fille, t'as le père qui dit à sa fille, qui lui conseille d'aller parler à des jeunes, enfin des enfants pour se faire des amis. Et lui, elle fait non, ils sont genre trop jeunes. Et elle lui répond, t'as qu'à aller leur parler aux parents. Et lui, il fait non, ils sont trop vieux. C'est vraiment, ils se mettent à l'écart volontairement et c'est ça qui est touchant. Parce que, en fait, on vient casser le simple au climax du film, qui est une scène de danse sur Under Pressure, avec l'accent bien sûr, de David Bowie. Et de Queen. Et j'avais jamais vraiment écouté les paroles. Et là, en écoutant les paroles, en voyant le film, qu'est-ce que ça colle bien à la scène et qu'est-ce que ça colle bien au film tout court à ce moment-là dans l'histoire, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est assez décousu. Et c'est ça qui fait tout le charme parce que vraiment, on assiste à des vacances. Il n'y a pas de fil conducteur pendant les vacances.
Non, mais c'est vrai quand on dit c'est décousu en général, c'est péjoratif, c'est aussi positif, hein, le décousu. Hein. Quand on sent pas le canevas d'un film très pesant, typique, biopic américain, gloire, chute, etc., c'est aussi très rafraîchissant. Hein. Ça peut être très positif, hein, décousu. Bon, c'est un mot que j'aime bien.
Au-delà du fait que le film il traite sur l'adolescence, parce que forcément, c'est la vision de Sophie vis-à-vis de ses vacances, mais aussi c'est elle dans sa quête de comprendre son père
parce que quand elle était jeune, elle comprenait pas forcément certaines choses. Et en fait, sous toutes ces couches de... Enfin, sous ses vacances avec sa fille, ce père vit un réel mal-être et ça monte la dépression d'une façon qui n'est pas forcément très explicite. Et justement, le personnage de Sophie, elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, elle essaye de rechercher dans tous ses souvenirs. Quoi.
Le personnage du père, il est extrêmement mélancolique.
Ouais.
Et on sent qu'il a peut-être fait des erreurs par le passé et qu'il n'a pas envie que ça arrive à sa fille. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus touchant du film. C'est que vraiment, il tient à ce qu'elle fasse pas comme lui. Et voilà.
Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
Samy ? On continue notre parcours, en tout cas d'AVC, parce que c'est vrai que sur notre liste de courses, on en a pas mal. The Fabelmans également, je voudrais en parler également. Il nous en reste deux, parce que c'est vrai qu'on court un peu et le temps passe vite, mais vous notez au fur et à mesure en écoutant notre émission. Donc The Fabelmans, c'est le dernier film de tonton Steven Spielberg. Alors pourquoi je dis tonton ? Parce que c'est un des grands piliers d'à peu près tout ce qui s'est fait en pop culture depuis 50 ans au cinéma. Et c'est vrai que pour vos générations, quand vous découvrez Steven Spielberg, moi je suis assez curieux de ce que vous dites de son dernier film, justement, parce qu'il a, comme pour beaucoup, touché énormément de registres, de la pop culture au cinéma d'art essai, au cinéma d'auteur. The Fabelmans, comment on peut le résumer d'ailleurs, Céline ? Est-ce que tu veux te lancer à nous le faire ? Tu as soupiré.
Ça, là, c'est pas trop compliqué à résumer.
Alors, coup de pression d'ailleurs au passage.
Non, mais tu veux que je...
En deux phrases. On va voir qui fait mieux le résumé, allez-y.
On suit la jeunesse d'un enfant fan de cinéma qui est peut-être Steven Spielberg.
Waouh!
Probablement.
Ah, mais en une phrase, c'est bon. Tour. Stop, enfin, c'est bon, arrêtez. J'y vais, j'achète ma place.
Et ben voilà, on suit la vie d'un jeune garçon passionné de cinéma et qui va aussi, qui est contraint par ses problèmes familiaux. Et qui est fortement inspiré de la vie de Spielberg.
Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste ? Du coup, ça me fait penser au dernier film de James Gray, Armageddon Time aussi. Parce qu'il est new-yorkais, de mémoire, Steven Spielberg. Non, c'est pas ça ? Léa fait non. Alors, James Gray est new-yorkais, mais Steven Spielberg, ça se passe où, du coup ? Arizona plutôt. Ok, d'accord. Ouais, c'est plus reculé. Et donc 2h30 de biopic. Alors on est proche d'un biopic.
Je pense que je l'ai à moitié apprécié.
D'accord. Non, mais c'est.
Je l'ai trouvé. Je sais pas si nier c'est le mot, mais il y a certains passages où je me demandais pourquoi ils étaient là. Des passages vus et revus, notamment quand il est au lycée. Il y a la scène classique du quarterback.
Ok.
Mais j'essaye de faire l'avocat du diable et de me dire que c'est pour. On remonte cette scène, mais cette fois-ci, on la regarde d'un autre angle ou quoi, mais c'était comme celle qu'on a vue 20 fois ou 30 fois, et je voyais pas trop l'intérêt que ça avait dans l'histoire.
Alors moi, je savais rien du film. Quand on enregistre pour nos éditeurs, je vous écoute et je découvre les films en vous entendant parler, et là, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que là, on voit que vous avez pas du tout la même perception de Spielberg qu'on a, et c'est ça qui est très enrichissant, parce que moi, pour 40 ans, la scène du quarterback cliché dans les lycées, il faut savoir que c'est Spielberg qui contribue à créer ces scènes clichés, quoi, toute sa carrière. Donc, c'est vrai que le voir revivre, le voir raconter, et que vous avez sur le regard critique, ça en dit long, justement, sur la différence de perception. C'est hyper intéressant, je trouve. Dit justement, est-ce que tu as la même perception de The Fabelmans, donc qui est très autobiographique sur Spielberg, et plus directement en tout cas de ce qu'il a fait dans ses expériences précédentes ?
Bah, du coup, c'était un film que j'attendais beaucoup parce que on nous l'a vendu comme un film qui parle de la passion du cinéma, qui est une lettre d'amour au cinéma, de tout ça. On nous dit aussi que, enfin, en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, bon, bah, Spielberg, il s'est posé pour la première fois de sa vie, nous raconter son histoire, son enfance, d'où vient sa passion. Forcément, t'es hypé, t'as envie d'y aller. Franchement, tu te dis...
C'est bien vendu.
J'espère que ça va être génial. Et en fait, je pense que je veux encore aimer ce film, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Je ne le déteste pas parce que c'est Spielberg et qu'il fait toujours un très bon boulot. Mais c'est vrai que en fait on en devient déçu parce que déjà je trouve que
ça explique d'où vient la passion du cinéma chez un enfant. Mm-hmm. Mais finalement, le film va vraiment plus tourner autour du divorce des parents.
Okay.
Mais ça impacte, oui, ça impacte forcément un artiste, etc., sa passion, comment il voit le truc. Mais en fait, ça tourne beaucoup autour des parents et autour de ça, et qu'au bout de 2h30...
Oui, j'ai une question piège pour vous deux. Alors, je ne sais pas comment vous perceviez Spielberg. Hein. Si vous mettiez sur un totem comme les générations précédentes, on a eu l'occasion de le faire. Y compris quand il fait des films peut-être un peu plus légers avant celui-ci, comme... alors, léger... dans sa filmographie, hein, parce que Lincoln est un sujet important, mais qui était beaucoup moins marquant que les précédents. Mais est-ce que, en fait, la vraie question, c'est de découvrir qu'il a une enfance très banale, quoi. Ouais. En fait, qu'il lui aurait pas arrivé des trucs de dingue avec un Men in Black qui vient le voir dans la rue.
En fait, je pense que c'est à ça aussi, que, bah oui, c'est une vie de quelqu'un, quoi. On t'en dit pas plus. Et que je pense aussi, ça part dans les clichés, parce que ça se trouve, bah, il avait une vie cliché, en fait, comme tout le monde. Et finalement, quand t'es devant le film, tu fais, ah mince!
Mince, il a pas une vie de dingue.
Et à la fin, on peut pas lui en vouloir parce que bah, c'est inspiré d'une vie, forcément. Enfin, faut pas s'attendre à que ce soit plein d'action. Mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Mm-hmm. On avait vraiment, enfin, moi j'avais envie de sortir de ce film et me dire je vais prendre une bande de potes et on va aller se créer un court métrage. Et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Ça m'a pas forcément donné envie de faire du cinéma. Et
on va passer au dernier film hein, de sélection parce qu'on avait plein sur la liste. On a été obligé de faire des sacrifices. On va parler de Tar juste après. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui ont parlé de nostalgie et de souvenirs dans nos listes. Et notamment dans l'année 2022 aux États-Unis, on a eu pas mal. Hein. Notamment l'année s'est ouverte avec Licorice Pizza. Et justement, Licorice Pizza, ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui vivent dans des villes où il se passe des choses, où on sent une effervescence culturelle et qui n'ont pas forcément des trajectoires invraisemblables ou qui sont devenus des vedettes, mais on voit cette envie de refaire vivre ce qu'ils ont à un moment donné croisé, que ce soit pour Anderson ou pour Spielberg. Et c'est vrai que parfois il y a des quotidiens qui parlent plus que d'autres. Et c'est vrai que pour Licorice Pizza, il y avait beaucoup cet effet d'entraînement qui a été, je le sens, beaucoup plus marqué que là avec The Fabelmans ou même à Margin Time pour James Gray, qui était un très bon film également. Mais il y a des gens qui vous proposent leur vie. Alors c'est une démarche très ampoulée, très intime, et on pourrait en dire long en psychologie, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de vous ouvrir une mémoire. Est-ce que ça va vous emballer ou pas? Et là est toute la question, en fait.
Je pense, pour revenir à Licorice Pizza, ce qui fait qu'on l'a plus aimé peut-être que les autres, c'est le côté Los Angeles. Je pense très clairement que c'est le côté Los Angeles et le côté féerique, mm-hmm, qui parle plus que la vie d'un enfant dans l'Arizona au milieu des... Du sable.
Et pourtant, au cinéma des années 80, vous aviez Explorer, John Hunty qui montrait beaucoup d'enfants comme ça dans des provinces reculées. Stephen King, hein, qui met toutes ces histoires dans le Maine, qui est l'équivalent de la Creuse pour nous. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans ces régions reculées aux États-Unis. Et c'est vrai que là, pour le coup, The Fabelmans, on reste là-dessus. Et d'ailleurs, allez le voir hein, pour évidemment vous faire votre avis. Moi, ça me donne en tout cas très envie d'aller le voir également, hein, malgré ça, parce qu'on voit qu'on a tous des perceptions différentes.
Juste pour les Grace Pizza, je pense que c'est aussi les personnages qui sont très. C'est pas le cliché blond aux yeux bleus, c'est vraiment un personnage...
On sent qu'ils ont existé, voilà, qu'ils pourraient exister.
Lydia Tarr est multiple. Tarr a commencé sa carrière de chef d'orchestre avec l'orchestre de Cleveland, l'orchestre symphonique de Chicago, l'orchestre symphonique de Boston, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin ici, chez nous, au Philharmonique de New York. En 2013, Berlin a choisi Tarr comme chef d'orchestre permanente et c'est là-bas qu'elle est restée depuis lors. Lydia Tarr a également écrit de la musique pour le théâtre et le cinéma. Elle fait partie des 15 que l'on appelle les EGOT, ceux qui ont remporté les 4 récompenses majeures dans le domaine du spectacle. Merci.
Alors on peut finir, parce que j'ai vrai qu'on avait beaucoup de films sur notre liste, et merci beaucoup en tout cas d'être venu avec toutes ces critiques-là. Finir avec Tarr, on a l'impression de voir un film qui ressemble à très peu d'autres films. Avec Cate Blanchett qui choisit très très bien ses projets et se réinvente très régulièrement, elle qui est une grande vedette hollywoodienne, prend beaucoup beaucoup de risques pour une actrice de sa génération. Vous étiez dû à vouloir absolument nous en parler, et elle vraiment t'avait insisté, il fallait parler de Tarr, sinon tu partais fâché aujourd'hui.
Il y a vraiment deux groupes. Il y en a, et souvent, ils ne regardent pas la bande-annonce avant de regarder un film. Il y en a, ils regardent la bande-annonce. Moi, j'ai regardé la bande-annonce. Et en fait, la bande-annonce, elle nous vendait un peu le fait que ce soit un film qui parle beaucoup de la folie d'une chef d'orchestre. On peut s'imaginer que vraiment, elle est complètement folle et elle vit à fond son métier. Et il y a quelque chose un peu comme ça. Et j'ai trouvé que le film... Alors, y a Cate Blanchett, il y a Nina Hoss aussi, et c'est vraiment, c'est des actrices incroyables, et son rôle, il était bluffant, mais j'ai trouvé que c'était assez long.
D'accord.
Et en même temps, c'était pas assez... il manquait cette folie.
Ok.
Aimée. Qui nous vendait un peu.
Oui, c'est-à-dire que la bande-annonce, qui est très réussie, la bande-annonce, hein, quand on la prend en pleine tronche, j'allais dire, on sent que c'est un film qui va quand même assez loin. Moi, ça m'avait fait penser à une autre bande-annonce. Alors, j'en regarde pas beaucoup, je suis un peu comme toi, j'aime bien ne rien regarder d'un film avant d'aller le voir, mais ça me faisait penser à Under the Skin, des films comme ça, alors qui n'est pas du tout dans le même registre, mais impactante dans le sens où on découvre l'univers, on ne sait pas, ça n'a ni queue ni tête. C'est le principe d'une bande-annonce, mais ça vous donne envie, en tout cas, de voir, de remettre les éléments les uns après les autres.
Oui, en fait, ils auraient pu encore plus accentuer le personnage.
Très bien.
Même si vraiment, pour le coup, la caméra, elle prend vraiment le temps.
Okay.
Genre, il y a des scènes très longues. Même la scène du début, elle est assez longue, mais on assiste quand même à une interview et ça rend le film assez réel. Et en fait, donc, ça prend vraiment le temps de prendre sur le personnage. Mais c'est vrai que... Oui, de Lydia Tarr. Mais c'est vrai que c'est assez long. Et en fait, on la suit. Il se passe des choses, voilà. Mais ça va pas jusqu'au bout. Et en fait, la fin, j'ai trouvé qu'elle était vraiment... C'était déçu. Ça avait un peu ni queue ni tête, j'ai trouvé. Et même si quand même ce film est très bien réalisé, c'est très beau, il y a vraiment une identité.
Ah oui, alors les images, c'est vrai qu'on le voit dès la bande-annonce, c'est fou. Hein. Moi, je croyais que même c'était Nolan au départ.
Voilà, c'est ça. Et par contre, après, le rôle de Cate Blanchett, voilà, elle joue super bien et tout était bien. C'est juste cet aspect que ce soit long et qu'il se passe des choses, mais c'est pas... voilà, y a pas
peut-être un peu trop... je pensais à certains films de Niklas Winding-Refn, un peu trop conceptuel dans certaines démarches aussi, ça peut être parfait.
Ça manque d'une sorte de boucle fermée. Genre, je trouve qu'ils l'ont pas fermée à la fin.
Très bien. Alors,
et bah, Tar, c'est un film qui est très long. Bah, ça, je peux pas le nier. Et justement, c'est ce qui me plaît, c'est qu'on prend le temps. Rien que... Bah, déjà, au début, on nous met un mystère en place, une scène avant le générique. Et donc, déjà, on apprend à connaître le personnage de Lydia Tarr, parce qu'au début, on la voit, enfin, on ne sait pas qui elle est. Et puis, peu à peu, au début, on a beaucoup d'empathie pour elle. Et puis, peu à peu, on va être amené à se poser des questions. Il y a une scène où, par exemple, elle défonce vraiment verbalement un mec, bon, qui, ok, il refuse de, voilà, mais il peut juste partir du cours à la limite. Et elle, vraiment, elle le défonce. Ensuite, en fait, c'est petit à petit. On va moins être en empathie avec le personnage. Et du coup, on va peut-être... ça va moins nous impacter ce qui lui arrive. Mais c'est ce qui le rend d'autant plus puissant, j'ai trouvé. Parce que vraiment, on assiste à une descente aux enfers. Mais du coup, une descente aux enfers qu'on peut se permettre de regarder objectivement. Et le jeu des comédiens est brillant. Notamment des comédiennes, puisque les personnages principaux, en fait, sont des femmes. Il y a un personnage vraiment masculin important. Et sinon, le reste, c'est des femmes. Et notamment, l'assistante de Lydia Tarr au début, c'est Noémie Merlant, qui est française.
D'accord.
Et qui joue extrêmement bien. Ce que j'aime dans Tarr aussi, c'est que du coup, ce côté très lent, très languissant, c'est que c'est par petites touches qu'on vient ajouter du fantastique, du mystère. Et c'est jamais vraiment résolu. Mais en fait, je pense que... Moi, je l'ai vraiment vécu comme une projection mentale de sa... C'est elle qui s'imagine des choses pour... un moment, elle craque dans le film avec un accordéon. Et vraiment, moi, je l'ai vécu comme... qu'est-ce que ça fait de quelqu'un qui est pas... Qui, en fait, a fait sûrement des choses mauvaises, enfin, on l'apprend. Et qu'est-ce que ça fait, la retombée, la descente aux enfers? Et notamment, ça se finit dans un endroit du monde que je vais pas spoiler.
Vous avez une peur du spoil, hein?
Non.
Je sais pas si c'est vraiment les générations.
En fait, on gagne vraiment...
Vous pouvez y aller, hein, y a pas de problème.
Non, mais c'est parce que si je dis où est l'endroit, en fait, mon prochain point... C'est que le film n'est pas très drôle, mais il y a une blague drôle qui est justement dans ce pays sur une mauvaise compréhension de ce qu'elle demande à un hôtel. Et j'ai trouvé ça un peu marrant parce que justement, c'est ce dont elle cherche à se couper et ça la rattrape. Et voilà, Tarr, c'était vraiment très bien.
Et du coup, ça t'inspire? En tout cas, moi franchement, j'avais très envie de le voir avant. Et c'est vrai que là, vous entendre parler tous les deux, moi, ça, c'est justement les deux avis qui apportent le contrepoint en fait et permettent vraiment de nuancer ce que j'ai vu dans la bande-annonce. En tout cas, on pourra faire des tonnes d'émissions sur les bandes-annonces, le fait de les voir ou pas les voir. Mais c'est vrai que pour le coup, ça peut un peu biaiser la critique qu'on a du film en fait.
Oui, mais pour le coup, par contre, c'est un film à voir, c'est pas un film
Ah, bien sûr.
À ne pas annexer parce que c'est vraiment il y avait vraiment des choses très intéressantes, même s'il y en a, ils peuvent ne pas aimer, c'est vraiment hyper intéressant, donc c'est vraiment...
On perd jamais son temps avec un film.
Sinon on dort et puis ça fait 2 heures de sommeil.
Non. Ah, faut mieux y voir Babylone alors, non,
non mais, c'est ce que je voulais dire.
Moi j'ai un seul regret sur Tar, c'est que Lydia s'appelle pas Ava. Donc ça c'est un autre débat. Voilà. Tu peux enchaîner derrière.
Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Et du coup, je voulais dire que ça m'a beaucoup. Enfin, j'ai vu 2 films consécutifs, notamment La Femme de Tchaïkovski, qui m'a beaucoup fait penser à Tar sur la. Bah, La Femme de Tchaïkovski, c'est aussi une descente aux enfers d'une femme dans la société russe de la fin du 19e siècle. Et ça m'a beaucoup rappelé tard par sa maestria technique.
J'ai l'impression que c'est vraiment un point commun de nombreux films qu'on a évoqués aujourd'hui. Hein. Ça, le fantastique par petites touches, rester à la frontière, un peu à la Maupassant.
Oui, mais là, c'est vraiment... Ça n'a pas de conséquences. D'accord. Le fantastique, on sent vraiment que c'est peut-être plus une projection mentale de quelqu'un qui n'est pas bien. Qu'on résout. Ouais. Oui. C'est pour ça que je pense qu'on veut jamais résoudre ça, ouais. Et plutôt le mettre par petites touches comme un craquage mental.
Très bien. Mais en tout cas, un grand merci parce que c'est vrai que là, on a une belle variété de films une nouvelle fois. On a commencé donc par ce retour sur La Nuit du 12 et puis après, comme vous l'avez perçu pendant ce podcast, on a beaucoup de films qui partagent beaucoup d'inspirations semblables avec évidemment des écoles et des styles différents. Un grand merci à vous tous. Hein. C'était vraiment très plaisant une nouvelle fois. Vous retrouvez ce podcast donc sur Anchor, Spotify et toutes les plateformes de téléchargement. Et on vous retrouve dans un mois et demi à peu près, hein, pour les prochains films à réessayer. Vous avez déjà branché des films sur la liste là, dans les prochaines semaines? Ouais, vous avez déjà coché. Ok. Bon, on verra ça en tout cas dans les prochaines semaines. Merci à tous. C'était hyper sympa.
Et dès la semaine prochaine, c'est le retour de Mars au cinéma avec nos amis de l'Astrocentre, les films qui cette fois-ci appliquent plus ou moins la science au cinéma. Salut à tous.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça? Hein?